Je vous propose que nous lisions à cette reprise un court extrait du premier chapitre des Actes, il s'agit des versets 15 à 19, Actes chapitre 1er, versets 15 à 19. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « chant du sang ». Et donc, en contraste avec ce que nous venons de lire et avec l'attitude de Judas, nous reprenons la lecture des versets 36 et suivants d'Acte 4. Acte 4, 36. Il y a donc celui qui acquiert un champ avec le salaire du crime, et il y a celui qui vend un champ qu'il possède. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, d'encouragement, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et puis quand même, en toile de fond, cette introduction à la partie pratique de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, puisque nous évoquons l'amour de Dieu dans un corps, Romains 12, 1 et 2. Et c'est intéressant, je vous exhorte, nous pourrions traduire, je vous encourage, parakaleo, il est là notre mot. Donc je vous encourage, je plaide. Je vous exhorte, je vous encourage donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique, conforme à ce que la raison demande, un culte venant du cœur, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, transformation de l'intérieur, n'est-ce pas, par le renouvellement de l'intelligence, de votre mentalité, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Tes besoins, cela m'intéresse concrètement. Et nous avons vu donc dans ce surnom de Joseph, nous avons vu avant tout et en premier lieu l'expression d'une plaidoirie en acte. En acte. Et il y a dans la deuxième aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, en introduction à ces deux longs chapitres d'une immense richesse en ce qui concerne la gestion des biens et la libéralité en particulier, il y a là une pépite qui entre tout à fait dans le cadre de notre réflexion. 2 Corinthiens 8, je lis les 5 premiers versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Nous en reparlerons. C'est un terme très fort. Vous avez dimension de la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre dans ces chapitres 8 et 9. Un texte sur la libéralité qui est encadré et pétri de la grâce de Dieu. Elle figure dans le premier verset et on la retrouve dans l'action de grâce du dernier verset du chapitre 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, la beauté inouïe de Dieu, la générosité insondable de Dieu, telle qu'elle s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, de toutes les pressions qu'ils subissent, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est intéressant parce qu'il y a un point commun entre l'attitude de Barnabas d'une part et l'attitude de ces Macédoniens d'autre part. Elle ne transpire pas de ce texte d'une manière directe, sauf dans la lecture du texte grec, puisque au verset 4, vous avez cette locution « nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints ». Nous demandons avec de grandes instances. Meta, polet, paraklesios. Vous voyez, le paraclète est là. Ils ont plaidé. Ils ont plaidé, ces Macédoniens. Ils ont été des avocats. Ils ont plaidé, mais de tout leur cœur, pour pouvoir être solidaire de l'Église de Jésus-Christ dans sa situation difficile en d'autres lieux, en Judée en particulier. Et le texte nous dit, d'après le verset 5, que cette plaidoirie se traduisant en acte était l'expression de leur consécration au Seigneur d'abord. Parce qu'ils se sont d'abord consacrés au Seigneur, ils se sont ensuite consacrés à nous, et cette consécration s'est traduite dans ce résultat d'une plaidoirie du cœur. Ils ont voulu être l'amour de Dieu dans un corps. D'ailleurs, tout est intéressant dans ce verset. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part, littéralement, de communier. Il est ici question de la koinonia, un terme d'une immense richesse, et qui a été tellement réduit dans sa signification, dans le langage religieux de notre temps. Prendre part, donc communier littéralement au service, le diaconat, littéralement, le mot assistance, le diaconat, le service destiné au saint, à la communion. Qu'est-ce que la communion? L'action d'avoir en commun, de partager, de participer à les affinités que l'on peut avoir les uns avec les autres, l'échange de relations, de communication, nous allons y revenir, les rapports intimes, le terme est utilisé dans le cadre de l'union conjugale, c'est un mot très dynamique dans sa portée. Et il est bien au-delà de notre conception de la communion, du partage. Il est un échange de relations, il va très loin. Quelqu'un a donné cette illustration. Nous pouvons trop souvent considérer la communion comme ce geste, n'est-ce pas, le rapprochement de deux mains, cette proximité les uns des autres. Mais ce n'est pas ça la communion. Si l'Église, c'est simplement ce type de rapprochement, l'Église reste intensément fragile. Si je demandais à quiconque d'entre vous, même au plus asthénique parmi vous, au plus faible, de venir et de séparer mes deux mains, vous n'auriez aucune peine. Dans les Écritures, la portée dynamique de la koinonia crée une sorte d'interpénétration, n'est-ce pas? Ça, c'est la communion. Et là, si je demandais à quelqu'un d'entre vous de venir séparer mes deux mains, eh bien, je pourrais, avec un peu de résistance nerveuse, au-delà de la résistance physique, je pourrais tenir peut-être le coup pendant un bon bout de temps, quitte à me retrouver avec certaines phalanges abîmées. On sait quelle capacité il y a de résistance dans cette interpénétration. Et c'est ça dans les Écritures, la communion. Quelle solidité nous allons la voir en œuvre plus loin dans les textes. Quelle solidité dans une église locale, quand on a compris ce caractère profondément actif et dynamique de la véritable communion. Il est intéressant de constater que dans le Nouveau Testament, le verbe ou le nom, les mots de la famille sont utilisés à 11 reprises pour évoquer les échanges précisément dans le domaine des finances et des biens. Dans Acte 2, vous avez une forte densité de cette expression. Dans Acte 2, 42, ils persévéraient, ils étaient assidus, il y a un sens d'assiduité, ce n'est pas le mot classique pour persévérer, qui évoquerait la constance, mais plutôt l'assiduité, la régularité. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Mais la koinonia, là, déjà, est cette interpénétration qui va au-delà de certains aspects classiques que nous connaissons. Il est question aussi de la fraction du pain, des prières. Et vous avez ensuite une démonstration de ce qu'est cette communion fraternelle. Tous ceux qui étaient croyants dans le même lieu, avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voilà une pratique de la koinonia qui était particulière, qui ne doit pas faire partie des principes que nous devrions mettre en œuvre de manière systématique dans la vie de nos églises. Il y avait tout un contexte tout à fait particulier, lié d'ailleurs aussi à la vie en commun des disciples auprès du maître, à la situation particulière de Jérusalem, de l'Église, aux circonstances de la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Et vous savez que dans l'histoire de l'Église, lorsqu'on a voulu utiliser ce texte et appliquer de manière systématique cette forme de vie communautaire, ça a donné lieu à des situations parfois absolument catastrophiques. Il y a des exemples dans l'histoire de l'Église qui sont profondément douloureux, mais il est tout de même un principe qui demeure, celui de cette plaidoirie en acte que nous avons déjà souligné à plusieurs reprises. Vous verrez les mêmes termes dans Romains 12, voyez, dans le cadre de la consécration, Romains 12, 13, prenant part aux besoins des saints. C'est encore là la koinonia. Romains 15, 26, la Macédoine et l'Achaïe ont trouvé bon de faire une collecte, littéralement, une mise en commun en faveur des saints de Jérusalem. De Corinthiens 8, 4, nous l'avons vu, de Corinthiens 9, 13, il est question des saints qui glorifient Dieu pour la générosité de votre communion avec eux. Galates 6, que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui qui enseigne la parole, et que le disciple communie. C'est là aussi le terme utilisé, Philippiens 4, 15. Aucune église ne s'est associée avec moi pour un compte de droits et avoirs. Là encore, aucune église n'a communié avec moi. 1 Timothée 6, 18. Aux riches, il est prescrit de donner de bon cœur, de partager, c'est-à-dire de communier littéralement. Hébreux 13, 16. Il est question de la bienfaisance et de la mise en commun des ressources. Ne les oubliez pas, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc le mot koinonia peut être rendu par contribution, participation, collecte, association, communication, libéralité. Vous voyez, encore un de ces mots extrêmement riches dans les Écritures et qui a l'art de nous atteindre parfois dans des parties très sensibles de notre vie. C'est Martin Luther qui a souligné à juste titre que trois conversions étaient nécessaires, celle du cœur, l'épicentre de la personne, le quartier général de l'individu, celle de la pensée, qui est souvent associée au cœur, dans l'Ancien Testament en particulier, et il ajoute, et celle du porte-monnaie. Et j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt le fait que ce texte fondamental du judaïsme, et aussi pour nous, de Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, comporte plusieurs traductions araméennes, et l'une de ces traductions araméennes remplace le dernier mot, le mot force, curieusement, par le mot mammon, la personnification de la richesse. Alors, on a donc des textes qui disent « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta richesse. » Ah, mes amis, de quoi parfois nous mettre mal à l'aise. Je pense à ce candidat au baptême, et c'est un ami dans le service de Dieu qui a vécu cet événement, qui me l'a raconté. Ce candidat au baptême qui descend dans le lit d'une rivière pour y être plongé, et au dernier moment, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille dans la poche arrière de son pantalon. Alors, avec des gestes désespérés, il tente de sortir ce portefeuille pour éviter qu'il soit mouillé. Il est là, qui s'acharne, c'est pas évident du tout, d'autant plus qu'il est très ému, puis tout le monde le regarde. Et puis au dernier moment, tout à fait in extremis, enfin, le portefeuille jaillit. Et il s'apprête à le lancer sur la rive, lorsque la main de l'officiant chargé de le baptiser l'arrête dans son geste, et l'ami de lui dire, mon ami, non, il faut que ton portefeuille soit baptisé lui aussi. Oh, il a été gentil, il n'est pas allé plus loin, il ne voulait pas créer un problème au niveau des papiers, n'est-ce pas? Mais le message était donné. Vous savez, quelqu'un a dit qu'il y avait, en dehors du portefeuille, une autre dimension de notre personne, nous y reviendrons d'ailleurs, qui avait besoin d'être baptisé. C'était précisément cet organe. Hein? Notre problème, c'est que nous fermons la bouche quand nous sommes baptisés. Et la langue reste au sec. L'encouragement mutuel est un acte de consécration. On paye de sa personne. Dans l'encouragement mutuel, cela coûte quelque chose. Vous avez sans doute lu l'histoire, la parabole de cette poule et de ce cochon qui passent devant une église et ils s'arrêtent pour lire un grand panneau annonçant un repas avec eux au jambon. Ce n'était pas en France, parce qu'on ne fait pas comme ça. Mais je sais que dans d'autres pays, on le fait. J'y ai été invité même, parfois. Et le bénéfice de ce repas avec eux et au jambon serait envoyé à la mission. Et la poule de caqueter avec un plaisir évident, « Je crois que je vais y aller ». Et le cochon de grogner derrière en disant « C'est une décision bien facile pour toi, toi, tu n'as qu'à donner une offrande. Moi, je dois faire un sacrifice. » C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Tozer, qui a écrit ceci. Il ne fait aucun doute que l'attachement à la possession des choses matérielles constitue l'un des penchants les plus pernicieux de la vie. Et comme il semble si naturel et qu'il est si répandu, il est rarement dénoncé comme un mal. Pourtant, ses effets sont néfastes et tragiques. Cette calamité tenace aussi vieille que l'humanité ne peut être extirpée sans souffrance et sans peine. L'avare coriace que nous abritons tous en nous ne déposera pas les armes et n'acceptera pas de mourir tout simplement en obéissant à un ordre donné. Il doit être extirpé, arraché de notre cœur, comme on arrache une plante du sol, extrait dans le sang et la douleur, comme on arrache une dent. Il doit être chassé de notre âme, comme Christ a expulsé les changeurs de monnaie du temple. Et vous savez que c'est un des gros problèmes dans l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Je suis souvent profondément bouleversé, impressionné par la consécration dans le domaine matériel des plus pauvres de ce monde. C'est souvent en Afrique, à Madagascar, par exemple, que je suis interpellé par l'engagement de croyants qui ont pourtant peu. Et chez eux, peu, c'est peu. Chez nous, certes, nous parlons de crise et je veux bien croire que nous vivons un temps de crise. Mais qu'est-ce que notre crise? Quand nous sommes encore capables de nous payer le magnétoscope dernier cri. Qu'est-ce que c'est que cette crise? Un dernier mot avant de passer à un autre texte. Et il est nécessaire, à cause du début du chapitre 5, et il est presque dommage que nous ayons un fossé entre la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, et nous sommes tentés de cloisonner, à tort, là où il y a un lien et un contraste évident avec cette petite conjonction de coordination, mais qui souligne le contraste. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Une interpellation, un avertissement. Attention à ne pas succomber à la tentation de la contrefaçon, du plagiat de la consécration. Attention à ne pas donner l'apparence du complet détachement du premier amour. Et il est évident que le rayonnement spirituel pratique de Barnabas pouvait conduire à certaines formes de jalousie revêtant des déguisements subtils. Pour que Barnabas ait été remarqué de cette manière, il faut croire qu'il se passait bien des choses dans certains cœurs. Et voilà donc qu'Ananias et Saphira, sa femme, ont voulu lui ressembler. Mais comme on dit chez nous, pour la galerie, n'est-ce pas? Vitrine évangélique de la consécration. Et il y avait ce divorce entre la forme et le fond. Ce mensonge si facile, ce fait que l'on paraît ne servir qu'un maître alors qu'en réalité on en sert deux. Et cet encouragement, oui, mais cet encouragement d'origine charnelle, avec des motivations impures, cette consécration d'en bas, comme il existe une sagesse d'en bas. Alors disons-le, Dieu nous veut libres, et non contraints d'imiter formellement quelqu'un dans l'église locale sans que le cœur y soit disposé. Dieu nous veut libres. Il veut cette consécration du cœur. Et c'est pour ça que nous avons lu Romains 12. Offrez vos cœurs et il y a un petit et, il y a aussi une conjonction qu'on a fait sauter très souvent dans nos versions. Et soyez métamorphosé, transformé de l'intérieur par ce renouvellement permanent lui aussi de l'intelligence du cœur. C'est dans la tête que ça doit d'abord se passer. De manière à pouvoir discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Avertissement. Surgissement du temps du jugement dans le temps de la grâce. Échantillon, disons-le, des grands règlements de compte de la fin. Heureusement, n'est-ce pas, que Dieu ne procède pas systématiquement comme cela. Parce que qui d'entre nous serait présent ici aujourd'hui? Mais quand même, quel avertissement solennel! Quant à l'hypocrisie de nos pseudo-consécrations, à la manière dont nous sommes parfaitement capables de mettre des masques pour laisser croire que, plutôt que de dire, mais non, en ce moment ça ne colle pas, ça ne va pas. vivre dans la liberté de la grâce. Et ça, c'est quelque chose que Barnabas savait faire, nous allons le voir. Et nous passons maintenant dans le deuxième texte du livre des Actes, qui évoque notre ami Barnabas dans Actes 9. C'est le deuxième texte, il n'y a rien à son sujet avant, mais quelle richesse aussi, nous allons le voir dans ce deuxième passage. Actes 9, verset 26 à 28, où il est dit que lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il avait prêché ouvertement, avec hardiesse, franchement, au nom de Jésus. Il allait, venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimer en toute assurance aussi, avec hardiesse, c'est le même terme, au nom du Seigneur. Nous sommes en l'an 35 ou 36, donc quelques années se sont écoulées, peu, mais quand même quelques années, et grâce à Galates 1, 15 à 20, nous savons que Saul de Tarse est converti à Jésus-Christ depuis environ 3 ans. Il y a donc, si vous le voulez, entre le verset 25 et le verset 26, un trou de 3 années. Au sujet desquels nous ne savons pas grand-chose, nous pouvons supputer, nous pouvons penser que, mais il y a ce trou, et nous découvrons dans ce verset 26 le souci de Saul de Tarse de s'identifier à l'église locale. Et j'aime le souligner, même si je parle à des convaincus, j'ose le croire, que Saul refuse qu'on l'appelle Saul. Il s'appelle Saul et non Saul. Il n'est pas de ceux qui se complaisent dans une sorte de solitude, d'indépendantisme farouche, mais il sait que solidité rime avec solidarité et non avec solitude. Et cela d'emblée, n'est-ce pas? Dès sa régénération à l'issue de cette crise terrible que nous entrevoyons dans le texte qui précède, il est dit au verset 19, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêche dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Souci de s'identifier à l'église locale, de faire corps avec l'église locale. Il a besoin de l'église locale. Il sait qu'il est membre du corps de Christ. Le terme d'ailleurs est très fort. Au verset 26, lorsqu'il est dit que Saul tâcha de se joindre aux disciples, puisque littéralement, nous pourrions le rendre par cette expression, Saul tâcha de coller aux disciples, de s'agréger aux disciples. Il y a là un mouvement extrêmement fort d'identification. Et
Et puis, cette espèce de coup de poignard, ce blocage, mais tous le craignaient. Mais tous le craignaient. Sa réputation de persécuteur lui colle à la peau. Des bruits circulent. Et quand des bruits circulent à ce sujet, comme quoi, en tant que disciple de Christ, il veut se joindre aux disciples, les disciples ricanent. Des blessures s'ouvrent à nouveau. Et je peux imaginer toutes sortes de situations très concrètes de croyants qui montrent leur dos qui a été lacéré sur l'ordre de Saul. On peut se raconter toutes les histoires de la vindicte, de la méchanceté, de la haine de cet homme. Parce que il faut dire que les quelques textes dans lesquels il est question de sa haine vis-à-vis des disciples de Christ sont extrêmement forts. Hein. Simplement, chapitre 9, verset 1er, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » On ne peut pas faire mieux, hein. C'est de respiration qu'il s'agit. Si nous allons à rebours au chapitre 8 et au verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes en les faisant jeter en prison. Si nous allions lire son témoignage dans les versets 9 à 11 du chapitre 26 ou dans Galates 1, 13, nous n'aurions que des échantillons de ce calibre. Alors on se monte les uns les autres, on a peur. C'est pas possible que Saul, cet ennemi, ce champion des ennemis du peuple de Dieu, tout juste digne de figurer dans le livre des records, dans ce domaine, lui, converti à Jésus-Christ, n'en parlait pas. D'ailleurs, nous avons un autre exemple dans le texte. Pas besoin de chercher à exagérer. Regardez au chapitre 9, toujours au verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » C'était facile jusque-là. Hein. Il y a des moments où nous disons, hein, « Nous sommes consacrés, nous sommes présents, Seigneur. » Toujours présents, toujours prêts, comme dans le scoutisme. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, tu n'es pas au courant. » J'ai appris ce que tu ne sais pas. J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Tu sais, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais tiens, regarde, c'est dans le journal. Seigneur. Et le Seigneur est obligé de l'arrêter. Vous avez remarqué, il l'arrête. Hein? Mais le Seigneur lui dit. Hein? En fait, ça c'est ce que le texte ajoute, mais il n'y en aurait presque pas besoin, hein. On a l'impression que subitement, Dieu stoppe tout et dit « Va !» Cesse de causer, va. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et ça n'a pas dû être facile pour Ananias de sortir et d'aller jusque dans cette maison. Mes amis, la peur, par certains côtés, une nécessité. Elle n'a pas que de vilains défauts. Mais, dans certaines situations, la peur perturbatrice de la communication.
Marc 16, 8, la peur et le trouble les avaient saisis et ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Exode 6, 9, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Dieu. C'est fou ce que nos peurs modifient la qualité de notre communication. Je me souviens d'un lapsus fort regrettable de ma part, mais qui était lié à la peur. C'était au printemps 1964. J'étais étudiant dans la région de Lyon, en France, et nous savions en tant qu'étudiants qui empruntions souvent les autobus de la région lyonnaise qu'il y avait des inspecteurs chargés de contrôler nos billets dont un avait une réputation. Tout le monde avait peur de lui parce qu'il ne se gênait pas de vous faire savoir ce qu'il pensait de vous publiquement au milieu de tous les passagers. Bref, c'était très très dur. Et un jour, je l'ai vu monter dans le bus dans lequel j'étais. Et le jeune étudiant que j'étais s'est mis à trembler comme une feuille. Pourtant, j'étais en règle. Il avait une telle réputation. Et il est venu vers moi après avoir contrôlé les autres personnes et il m'a demandé mon billet. Et tenez-vous bien, je ne retrouvais pas mon billet. Alors, il s'est énervé, selon son habitude. Plus il s'énervait, plus je perdais mes moyens. Et finalement, désespéré, il a continué sa tournée en me promettant de revenir vers moi pour régler mon compte. Alors, j'ai fouillé, j'ai cherché. Et je pense que l'éloignement de ce personnage m'a aidé à retrouver quelque peu mes esprits et j'ai enfin réussi à trouver le bon billet. Et quand il est revenu vers moi, j'étais fier de lui présenter mon billet, mais j'étais quand même tout tremblant. Et alors j'ai fait le lapsus qu'on ne devrait jamais faire dans de telles circonstances. J'ai voulu lui expliquer simplement où j'avais trouvé mon billet. Et je lui ai dit, non pas il était dans mon porte-monnaie, mais j'ai dit, il était dans votre porte-monnaie. C'était un lapsus. Je voulais sincèrement dire, il était dans mon porte-monnaie. Mais vous savez, il y a des neurones qui... Hein? Et j'ai eu un petit problème. Alors, vous savez, ça m'a coûté cher, hein? Parce qu'alors, il a cru que je me moquais de lui. Et j'aurais aimé rentrer dans le sol, n'est-ce pas, disparaître sur la route, sous le plancher du bus. C'était pas possible. La peur. La peur. Et la peur dans une vie d'église locale, elle peut faire de la totalité de cette église locale une espèce de forteresse de béton qui quitte le terrain de la consécration. Cette espèce de complicité de l'entourage où chacun influence l'autre, où on se monte la tête les uns les autres. Il existe une solidarité, une communion qui glorifie le Seigneur, une homogénéité, une unité de l'Église locale qui glorifie le Seigneur, mais il existe aussi de ces tristes homogénéités, de ces murs de béton qu'on peut ériger dans la communauté locale en se montant la tête les uns les autres. Et il m'arrive de devoir dans mes responsabilités, servir de médiateur dans des situations, toute une église locale, ou tout un comité, par exemple. Fait preuve d'esprit de parti, de corporatisme. Et on est aveuglé du président au dernier assesseur du comité. Plus personne ne voit clair. Et ce qui est beau, c'est que dans cette situation, Barnabas intervient. Et j'aime souligner quand même une constatation, c'est que s'il nous est dit que tous craignaient Saul, ce tous englobe Barnabas. Barnabas aussi fait peur. Barnabas n'est pas un Superman. Ce n'est pas un surhomme. Mais simplement, c'est un homme de Dieu qui va apprendre à gérer sa peur avec Dieu. Dieu ne nous interdit pas d'avoir peur. Dieu a utilisé de manière remarquable des hommes qui étaient de grands froussards. Un de mes plus grands copains, parce que c'est lui qui m'a convaincu d'accepter la fonction de secrétaire général de notre fédération, il est dans la Bible. Il s'appelle Gédéon. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est que c'était un homme qui avait peur. Alors, les peurs, hein, les unes derrière les autres. Hein. Regardez dans les textes combien de fois il a peur. D'ailleurs, c'est quand il cesse d'avoir peur qu'il commence à pécher. Quand il est trop sûr de lui après un certain nombre de victoires, alors il tombe dans l'idolâtrie. Mais quand il a peur, il dit, Seigneur, j'ai peur, eh bien le Seigneur l'encourage. Et il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Et il trouve des solutions, il fait de nuit ce qu'on ferait de jour si on était plus courageux. Mais il le fait. Et je pense que là, Barnabas a des enseignements à nous donner. Parce que, dans le fond, je suppose que le raisonnement que doit tenir Barnabas est le suivant, mais si jamais, en tant qu'Église de Jésus-Christ à Jérusalem, nous marginalisons quelqu'un qui est véritablement membre du corps de Christ, alors nous faisons quelque chose de grave. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous monter le cou les uns les autres sur la base de la réputation de cet homme, alors que nul d'entre nous n'a essayé de le rencontrer. Alors, Seigneur, j'ai peur, mais je dois faire un effort. Nous l'avons dit, la consécration, ça coûte. Jeter des ponts, ça coûte. Une vraie communication, ça coûte. Et Barnabas va donc faire l'effort de construire un pont. Il va partir, ayant confié certainement sa peur au Seigneur. Il va partir à la rencontre de Saul pour l'entendre. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, vraiment souligner que pour être constructeur de ponts, c'est ce que Barnabas va être. Il faut passer par une porte basse. La porte basse de la communication qui s'appelle la croix. Il faut payer le prix pour apprendre à bien communiquer. Il y a des démarches dans ce domaine qui coûtent cher à notre orgueil. Et il se peut que Dieu se serve de cette journée pour nous interpeller personnellement au sujet de ponts que nous avons à jeter. Et où nous disons non, Seigneur. Non, Seigneur. Pas question. Non, sa tête ne me revient pas. J'ai trop souffert. Ne me demande pas ça. Il y a des démarches qui coûtent cher à notre orgueil. On m'avait demandé en mars 1994 de donner une série de conférences sur cette question de la communication dans les Écritures. Et ça se passait dans une sorte de château avec un petit C, évangélique, d'une région de la France, accueillant donc des églises. Et quand, avec mon épouse, nous sommes entrés donc dans ce château, une personne nous a conduit vers notre chambre, et nous avons commencé par avoir un sentiment de malaise. Tout d'abord parce qu'il fallait trouver où se situait la porte d'entrée. Elle était très bizarre, la porte d'entrée qui soi-disant menait à notre chambre. Elle était sous un escalier. Ce n'était pas une porte classique, mais elle avait une forme assez spéciale. Et surtout, elle était très basse. Et quand je dis très basse, je n'exagère pas. Alors, quand vous ouvriez cette porte, vous aviez un petit couloir très étroit et en face, vous aviez un mur. Vous regardiez bien et vous vous rendiez compte que, manifestement, le chemin se prolongeait en coude, angle droit, sur la droite. Alors vous entriez, en rentrant la tête dans les épaules, avec vos valises, comme vous pouviez, et en vous demandant, mais est-ce que je vais devoir passer là tout cette fin de semaine de conférence dans ce cadre? Ça a l'air quand même un peu problématique. Et puis quand vous preniez le tournant, vous aviez encore une espèce de couloir étroit, presque de boyau, de tranchée. Mais alors, vous débouchiez dans une salle, dans une chambre magnifique, un vrai studio, la plus belle pièce de ce château. Alors après ça, vous étiez réconcilié avec le personnel, avec la maison. Et pour ma part, j'avais l'illustration pour introduire ma série d'études. Et ce sont mes premières paroles, j'ai expliqué les sentiments qui étaient les nôtres quand on nous conduisait par ce chemin étroit et cette porte basse vers cette salle magnifique, studio, cuisine, tout y était. La porte basse de la communication. Alors Barnabas ne va pas construire ce pont n'importe comment. Il va prendre des précautions. Il ne va pas tendre une main d'association à n'importe qui. Au premier abord, une lecture rapide, en TGV comme on dit chez nous, en train à grande vitesse, ne nous permet pas de voir les choses, mais c'est dans le texte comme nous allons le voir. Parce que d'un côté nous sommes tentés par cette fermeté qui se transforme si vite en fermeture, n'est-ce pas? Nous nous installons si vite dans un ghetto dans notre vie d'église locale. Nos locaux deviennent si vite des bocaux, n'est-ce pas? Ça, c'est une extrême. Là où nous pouvons être tentés par l'excès d'ouverture, on peut être tenté, d'ailleurs parfois même, parce qu'on a d'abord eu ce comportement de ghetto, on est tenté ensuite de passer à l'autre extrême. Et que d'assemblées réputées pour un conservatisme farouche, et je peux le dire puisque je ne vous connais pas, mais que d'assemblées réputées pour un conservatisme farouche qui, le jour où elles ont connu ce déclic de l'ouverture, sont passées de l'autre côté. Et ont bâti des ponts absolument n'importe comment. Et se sont ouvertes à n'importe quelles influences. Autant elles étaient méfiantes, autant elles sont devenues naïves. Il y a quelques années, en 1992, nous avons connu en France une catastrophe terrible. dans une ville du sud, une vieille ville du sud-est, appelée Vaison-la-Romaine. Très très belle ville, avec des vestiges précisément de l'époque gallo-romaine. Cette petite ville est traversée par une rivière qui, le 22 septembre 1992, est sortie de son lit. Suite à des pluies torrentielles et qui a semé la mort et la destruction sur son passage, on a relevé 42 victimes. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir comment cette rivière a balayé, mais comme fêtu de paille, des ponts, tous plus perfectionnés les uns que les autres, construits à la lumière des plus belles découvertes en matière de génie et d'architecture, etc. Tous ces ponts ont été balayés comme des allumettes, hein. Et je me souviens encore d'avoir vu, aux informations télévisées du soir, une petite séquence tirée d'un film d'amateur qui a suivi le cheminement de la vague frontale qui a balayé ces ponts les uns après les autres, qui s'est chargé progressivement de voitures, de caravanes, de troncs d'arbres, de rochers, de tout ce que vous voulez. Et dans le film, on voit à un moment donné cette vague qui faisait, tenez-vous bien, 17 mètres de haut, quand elle pénétra dans cette espèce de goulot d'étranglement que constituait la vieille ville, elle pénètre, mais elle arrive là de plein fouet pour se heurter à un pont. Situé au cœur de la vieille ville, le pont le plus âgé de tous, appelé, c'est intéressant, le pont romain. Un pont dont on sait qu'il a été construit certainement à peu près à l'époque où Jésus circulait sur les routes de Palestine. Et là, bien sûr, la vague va balayer les parapets, mais ce pont va tenir ferme. Tous les autres ponts, tellement bien construits, tous balayés. Et ce vieux pont de tenir le coup. C'est une parabole. Bricoler, construire des ponts œcuménisants. Et nous pourrions ajouter d'autres adjectifs. De cette tendance à l'ouverture facile, détectable non seulement en France, en Suisse, en Belgique, mais dans tant d'autres parties de notre monde. Je vous en donne simplement un exemple. Il s'agit d'un calendrier destiné à préparer un jour particulier dans l'histoire de l'Église protestante d'Allemagne. Il y a chaque année un jour très spécial, on l'appelle le Kirchentag. Et c'était ce jour, cette journée nationale de l'Église protestante allemande en 1993. Et ce calendrier présentait 12 motifs d'un concours d'affiches qui avait pour thème le texte de Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Faites-vous mutuellement bon accueil. Le troisième prix fut remporté par une artiste dont le nom est sous mes yeux et dont la production picturale fut retenue pour illustrer la feuille du mois de février. Et cette feuille de calendrier du mois de février représente tout de blanc vêtu la personne de Christ avec une ébauche de couronne d'épines sur la tête, enlaçant le diable, représenté avec un pied beau, avec cornes et queues, à la manière médiévale du Moyen-Âge. Et il y a une note explicative au bas du motif, avec les dates. Jésus n'hésite pas à le prendre dans ses bras. Il donne presque une image harmonieuse. Voilà où nous en sommes. Et nous avons dans les Écritures des exemples de constructions de ponts qui ont été suivis de conséquences négatives impressionnantes. Je pense à Joab, le constructeur de ponts charnels, le bricoleur de la réconciliation dans 2 Samuel 13 et 14. Lorsqu'Amnon, fils de David, viole Tamar, sœur d'Absalom, et que 2 ans plus tard, Absalom le fait assassiner, fuite en Syrie. 3 années plus tard, donc 5 ans après le crime, Joab compose une mise en scène à l'oriental qui aboutit au retour du fugitif à Jérusalem. Et là, parce qu'Absalom insiste, et de manière peu cavalière d'ailleurs, finalement, le roi David, son père, accepte de le recevoir et de lui donner le baiser de la réconciliation. Au moment même où le fils de son amour, quelle passion il aura pour lui, au moment même où Absalom est déjà en train dans sa pensée, dans sa tête, dans son cœur, de fomenter le complot pour renverser le père royal et prendre sa place. Alors attention à ce genre de consécration que Dieu ne veut pas, à ces démarches que Dieu n'apprécie pas, de pseudo-réconciliation, de bricolage. Ce n'est pas ainsi que Barnabas va travailler. Et Barnabas va donc entreprendre une démarche visant à faire tomber des murs de méfiance et d'incrédulité. Ce sera d'ailleurs un puissant encouragement pour l'apôtre, tellement marqué par son passé. Et nous allons passer du temps, cet après-midi, à tirer 3 grands enseignements de ces quelques versets concernant la manière d'être fils d'encouragement en bâtissant des ponts, mais selon les règles de Dieu. Selon les règles de Dieu. Et j'introduis simplement, dans les quelques minutes qui restent, avec le premier enseignement. Il est tout simple, mais il nous pose tant de problèmes. Premièrement, Barnabas va à la source. Barnabas va à la source. Je ne peux pas vivre simplement de bruit, de seconde, de troisième, de quatrième, de cinquième, de sixième main. C'est pas possible. Pas dans cette situation. Il va à la source pour s'informer, pour se faire une opinion personnelle solide, et je peux l'imaginer, Barnabas, qui arrive et se retrouve en face de Saul et qui simplement lui dit: mais Saul, tu sais qu'il y a des bruits qui courent à ton sujet. Les uns disent que tu te serais donné à Jésus-Christ, puis tu as disparu de la circulation là depuis un certain temps déjà. Enfin bref, tout le monde a la frousse, tu sais. Nous ne savons pas quoi croire. Alors, s'il te plaît, Saul, raconte-moi. Raconte-moi. Et il n'a pu que lui dire cela, nous le verrons, pour une raison très simple, c'est que, mais là on verra une autre application, c'est qu'ensuite,
quand il a pris autorité sur Saul, parce qu'il va prendre autorité sur lui, et qu'il l'a amené auprès des représentants de l'Église, c'est lui qui a témoigné, c'est pas Saul. C'est lui qui cause. Ça veut dire qu'il a, il a interrogé. Il l'a entendu. Et je peux très bien m'imaginer, avec la beauté du caractère de Barnabas, et puis l'impétuosité, le caractère très radical de Saul, qui est encore très près de sa conversion, je peux imaginer le type de rencontre. Ça a dû être extraordinaire. Et je peux les imaginer, ces deux hommes, alors, eux se sont vraiment jetés à un moment donné dans les bras l'un de l'autre. Et Barnabas a pu dire, mais vraiment, alors, je ne peux que te croire. Il y a là, de toute évidence, et j'en ai le témoignage intérieur, un miracle extraordinaire. Je bénis Dieu pour la puissance de sa grâce, pour la manière dont il a commencé à te transformer. Oh, je suis tellement heureux. Et à partir de là, Barnabas, on pourrait le traduire ainsi, met la main sur Paul, sur Saul, l'ayant pris avec lui. Le terme grec est un terme à emphase, avec une préposition forte, qui pourrait se traduire, mettre la main sur, saisir, prendre autorité. C'est intéressant aussi cela. Ce qui me frappe dans la vie de Saul, c'est que Saul, avant d'être Paul, a accepté l'autorité d'autrui. Il a déjà dû accepter l'autorité sur le chemin de Damas, au verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Mais il fallait ça, il fallait ce régime pour Saul, le leader. L'homme brillant, capable, en tête, en pointe, le pharisien, le nec plus ultra. Mais voilà un homme que Dieu a fait passer à la moulinette de l'autorité. Et ça continue, n'est-ce pas? Au verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Vous remarquez, on le prend. On met la main sur lui, on le conduit. C'est un homme qui, à l'aube de sa vie chrétienne, a dû accepter de se soumettre à l'autorité. Ça fait du bien lorsqu'on pense qu'il s'agit de l'apôtre Paul. Et c'est vrai que ceux qui sont en autorité de la part de Dieu sont des hommes et des femmes qui ont d'abord appris à obéir, à se soumettre, puisque obéir, dans le terme le plus fréquemment utilisé, hupakouo, c'est écouter en se plaçant dessous, sous l'autorité de la parole. Alors que désobéir, parakouo, c'est s'éloigner, se mettre à l'écart par rapport à cette parole. Alors, simplement, cet après-midi, nous développerons quelque peu le problème lié aux attitudes fondées sur la rumeur. J'ai entendu dire que... Parce que c'est le problème dans ça. Les bruits qui courent. Importance de vérifier les bruits qui courent, de ne pas bâtir son jugement simplement sur les impressions des autres, sur ce qui se raconte. Que de problèmes dans nos vies d'Église. Il ne nous est pas demandé de nous informer sur tout, mais il est des choses qui nous concernent. Où Dieu nous interpelle et où Dieu nous dit au fond de notre cœur, dans notre relation avec lui, mais il faut que tu ailles à la source. Il faut que ton information soit aussi objective que possible. Tu ne peux pas te contenter simplement de ces bruits qui courent dans le microcosme évangélique. Alors nous verrons cet après-midi la fin de cette première caractéristique d'une bonne communication, être un bon constructeur de ponts. Et puis nous analyserons les deux autres grands enseignements très pratiques, eux aussi. Et puis, si le temps le permet, nous irons vers un troisième texte, un peu plus loin, donnant d'autres enseignements. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Te remercier pour le livre, pour ta parole. Merci pour son impressionnante actualité. Merci de ce que ces vieux textes, rédigés sur la base de faits il y a bientôt 2000 ans, merci de ce qu'il nous interpelle dans nos situations d'aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle. Quelle que soit notre culture, quel que soit l'endroit du monde où nous sommes, nous nous sentons concernés. Et Seigneur, cela c'est un miracle. Continue dans ta grâce à nous visiter, à nous interpeller très concrètement pour une vraie consécration, pour un service qui t'honore, pour que nous puissions nous aussi être de plus en plus hommes et femmes d'encouragement, de vrais bâtisseurs de ponts, hommes et femmes d'accueil. Mais selon toi, pardonne nos bricolages, tout comme nos exclusivismes qui nous transforment en hommes et femmes de ghetto. Visite-nous et donne-nous en Jésus-Christ l'équilibre dont nous avons besoin. Merci de bénir ce temps de communion fraternelle aussi, dans le repas, dans les échanges, et de nous renouveler en vue de cet après-midi. Nous t'en bénissons par avance, en Jésus-Christ.